Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio
écoutez
Omega.
Radio Omega.
103.9 Ouaga, 104.7 Obodioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
Alice Kagouni.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Radio Omega pour vous informer. À la une, opération de reconquête du territoire national. Dans ce journal, vous allez découvrir le quotidien d'un VDP, un volontaire pour la défense de la patrie, dans un dossier que nous propose Ibrahim Niaoné. Situation sécuritaire toujours, l'Organisation internationale pour les migrations a organisé un atelier de formation sur des exercices de simulation en conditions réelles dont le but est de permettre aux acteurs clés de tester les mécanismes et procédures de gestion et de coordination pour répondre efficacement à d'éventuelles crises à la frontière terrestre. Coup d'État au Niger. Le président du Nigeria, par ailleurs président de la CDAO, Bola Tinubu, appelle à une résolution à l'amiable de la crise au Niger. On ouvre ce journal avec ce dossier sur les volontaires pour la défense de la patrie, recrutés et formés pour défendre aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces derniers abattent un travail s'inscrivant dans la dynamique de reconquête du territoire national lancée par les autorités de la transition. Une lutte qu'ils mènent fièrement dans des conditions parfois difficiles. Malgré tout, ces supplétifs de l'armée sont dévoués à traquer l'ennemi jusqu'à leur dernière cachette. Lors de son passage à Ouagadougou, Ibrahim Niaoné a rencontré un volontaire national le 12 juillet dernier. Écoutez.
La soixantaine révolue, Amidou Bansé, un nom d'emprunt, a décidé de s'enrôler en janvier dernier en tant que volontaire pour la défense de la patrie. Après 3 mois de formation intense sur la stratégie de défense et les habitudes propres à un soldat, le supplétif de l'armée est déployé avec ses camarades dans le nord du pays. Depuis lors, il combat aux côtés des forces de défense et de sécurité engagées dans cette partie du Burkina Faso. Après quelques mois d'intervention sur le terrain, le constat de Amidou est sans appel. La force de nuisance des groupes armés terroristes est réduite.
Non, c'est pas comme ça, parce que maintenant, c'est plus comme avant. Avant, ils pouvaient venir attaquer au moins 7h, 8h, 6h de temps, et puis ils partaient sans gagner de pertes. Toutefois, ils gagnent. Mais maintenant, quand ils viennent, on ne peut pas tenir au moins 3h de temps. S'ils viennent, si on peut durer, c'est 2h. Donc, l'hélico est là, tout le monde est là, bon, nous on est là en tout cas, il ne peut plus supporter comme avant.
Pour autant, les groupes terroristes n'en démordent pas et tentent de s'adapter. Certains vont jusqu'à se fondre à la population civile pour planifier leurs attaques, selon ce VDP.
C'est mal avec la population, là on ne peut pas les distinguer. Une fois que tu rentres pour se gêner, tu vas tuer des innocents. Et de là-bas maintenant, les droits de l'homme vont condamner. C'est pour ça que nous on essaie de se gêner, parce que les graines, quand ça se mélange, on dit de trier. Donc, tu ne peux pas. Voilà, donc, tu es obligé de poser.
Une collaboration nécessaire entre population et forces combattantes qui permet de déjouer certaines attaques. Malheureusement, décrit Amidou Bansé, certaines personnes évitent d'alerter sur la présence des terroristes craignant des représailles. D'autres personnes aux intentions inavouées continuent de donner la position des troupes aux groupes terroristes sur le théâtre des opérations.
La population elle-même, il y a des gens qui sont infiltrés, il y a des gens qui sont les gens qui sont en bas, voilà, des espions qui les montrent. Souvent quand on sort, il y a d'autres qui se cachent derrière les maisons, derrière les bichons pour les appeler, pour dire que les militaires passent comme ça. Bon, et puis ils disent les membres qui sont, les armes qui tiennent, bon, pour les emplois, pour qu'ils puissent nous mener. Une fois qu'ils connaissent notre position, ils vont aller faire l'embuscade. C'est de là-bas qu'ils gagnent les gens. Sinon, à part ça, côté mine, en tout cas, depuis là, on n'a pas entendu qu'il y a une mine qui est sautée avec quelqu'un. Donc, sauf un ancien mine. Donc, on fait toutes sortes que. Mais comme il y a les infiltrés là-bas, bon, il y a d'autres villages aussi, quand tu parles, les touristes sont là avec eux, mais on ne les dénonce pas. Bon, il y a d'autres qui disent quand ils les dénoncent après, si les militaires passent, ils viennent maintenant vous tuer. C'est à cause de ça, et ils ne disent pas.
un comportement qui vient rendre la tâche difficile aux forces combattantes, mais qui n'entame pas le moral de ces soldats et supplétifs engagés à défendre les 274 400 km² du territoire national. Des victoires sont d'ailleurs engrangées grâce au courage et la détermination des supplétifs de l'armée. Mais là encore, ce volontaire regrette le peu d'équipement et des difficultés liées à la restauration et au logement.
Bon, il n'est pas bien encadré comme ce qu'on a vu. Parce que de là-bas, on a dit qu'on est arrivé, on va réformer encore, faire recyclage. Et depuis là, on n'a rien fait. Et après ça, bon, on est là, bon, on parlait de des gilets, bon, des choses imperméables. Bon, ils parlent, mais je n'ai pas encore donné. Bon, je ne sais pas, bon, c'est quoi s'il fait ça. Bon, de notre côté, bon, nourriture aussi, souvent, bon, ça va, souvent aussi, bon, ça ne va pas. Donc les gens se plaignent souvent de ça. Bon, ne doit pas aussi, il n'y en a pas, parce que c'est des tentes que nous avons données, et une tente à deux personnes. Mais les tentes là, quand il pleut, l'eau là, ça rentre, et puis on ne peut pas rester dedans. Nous aussi, on a essayé de fabriquer nos tentes dedans, on est là.
Amidou Bansé ne doute pas que ces conditions seront bientôt améliorées pour permettre au VDP de faire face à la menace et protéger les populations civiles. Dès l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir en septembre 2022, avec une nouvelle dynamique de reconquête du territoire national, les nouvelles autorités ont lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, pour appuyer l'armée. Un recrutement qui a connu une forte adhésion puisque la brigade de veille et de défense patriotique a reçu plus de 90 000 dossiers.
Et au regard de la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, l'Organisation internationale pour les migrations a initié un exercice dénommé CIMEX. Il s'agit d'un exercice de simulation à conditions réelles qui a pour but de permettre aux acteurs clés de tester les mécanismes et procédures de gestion et de coordination pour répondre efficacement à une crise à la frontière terrestre. Les résultats du dit exercice ont été restitués et validés lors d'un atelier tenu ce jeudi 3 août 2023 à Ouagadougou, le compte rendu avec Gisèle Tirogo avec la voix de Yagouba Wilio.
Le Burkina Faso a enregistré environ 2 millions de personnes déplacées internes à la date du 28 février 2023, selon le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, SP CONASU. Ces déplacements massifs sont parfois à l'origine de conflits transfrontaliers, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Dans l'optique de venir à bout de ces conflits, elle a organisé le jeudi 11 mai 2023 à Tingrela et Banfoura dans les Cascades un exercice de simulation CIMEX sur le terrain. L'objectif principal de cet exercice était d'identifier les systèmes existants en matière de gestion de crises transfrontalières selon le coordonnateur des programmes, Ousmane Niang.
C'est une rencontre de restitution et de validation d'un exercice de simulation qui a été organisé dans la région des Cascades pour accompagner les acteurs au niveau régional à pouvoir faire face à des situations de crise, que ce soit des crises humanitaires, sanitaires et surtout au niveau des frontières. Et qui nous a permis de tester les mécanismes et les dispositifs qui existent pour accompagner les acteurs dans le cadre de la mise en place de dispositifs qui puissent permettre, lors des situations d'urgence et de crise, de pouvoir répondre efficacement et surtout de renforcer aussi bien nos mécanismes d'alerte que nos mécanismes également de prévention et de gestion de crise.
Le CIMEX a été caractérisé par une simulation de déplacement massif transfrontalier de populations en détresse. Pour le gouverneur de la région du centre, représentant le ministre en charge de l'administration territoriale, cet atelier va permettre aux différents acteurs de dresser le bilan de l'exercice et d'en formuler des recommandations en cas de crise réelle. Abdoulaye Bassenga est le gouverneur de la région du centre.
Il faut, à travers cet atelier, saluer l'ensemble des acteurs de la région donc des Cascades. C'est l'occasion de revenir sur les travaux, faire le bilan afin de formuler des recommandations pour une gestion d'urgence au niveau des crises sécuritaires que sont au niveau des frontières. Donc c'est un sentiment de légitime fierté et nous espérons que ces recommandations qui seront formulées permettront de prendre en compte, j'allais dire, les urgences en matière sécuritaire, humanitaire qui se viendraient au niveau des frontières.
L'exercice de simulation sur la gestion des crises aux frontières de la région des Cascades entre dans le cadre du projet promouvoir la coordination et la coopération entre les communautés frontalières et les autorités en charge de la gestion des frontières au Burkina Faso et au Niger. Il a été financé par le département d'État américain.
De l'actualité sécuritaire, intéressons-nous à présent à la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène, encore appelée grippe aviaire. Du 24 au 26 juillet dernier, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, à travers la Direction générale des services vétérinaires, a organisé à Kédougou un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur l'influenza aviaire hautement pathogène, financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette session de capacitation s'inscrit dans le cadre du projet Réponse d'urgence pour la prévention, la riposte et le contrôle de l'influenza aviaire hautement pathogène au Burkina Faso. Judith Traoré.
Après les épisodes de 2006 et 2015, le 13 janvier 2022, le gouvernement du Burkina Faso a notifié la résurgence de l'influenza aviaire hautement pathogène, IAHP, la grippe aviaire. Dans la lutte contre la maladie, le gouvernement est accompagné par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, son partenaire traditionnel pour les questions de lutte contre les maladies animales. Docteur Estelle Kanyala, vétérinaire épidémiologiste chargée des questions animales à la FAO, nous situe sur les objectifs de cette formation.
C'est pour permettre aux journalistes de vraiment comprendre la maladie et de pouvoir diffuser leur message de communication auprès des populations pour que la population qui intervient beaucoup et dans la prévention et dans la diffusion de la maladie puisse vraiment adopter les bons comportements.
Une session de renforcement de capacité au profit des journalistes dont se réjouit la Direction générale des services vétérinaires au regard de la dangerosité de la grippe aviaire. Docteur Madi Savadogo, directeur de la santé animale.
La grippe aviaire est une maladie grave qui affecte les élevages avicoles. Lorsqu'il y a cette maladie qui s'introduit dans les élevages, ça entraîne des ravages. Ça peut même emporter tout le cheptel. C'est pourquoi, dans les efforts que la Direction générale des services vétérinaires met en œuvre pour contrôler cette maladie, il est important d'impliquer tous les acteurs qui peuvent contribuer à ce que la prévention, mais également le contrôle, soit une réalité au niveau du Burkina. Et nous savons que les journalistes, les médias de manière générale sont là pour contribuer à l'information au quotidien des populations.
Outre les connaissances acquises sur la grippe aviaire, les journalistes venus des 12 régions du Burkina ont pu échanger sur les techniques de production et de diffusion d'informations accessibles au public sur l'IAHP au Burkina. Les bénéficiaires, tout en saluant cette initiative, ont promis d'être des relais auprès des populations pour éviter une nouvelle résurgence de la grippe aviaire au Burkina.
Toujours dans la cité du Cavalier Rouge, bientôt Kédougou disposera d'une antenne régionale d'établissement des CNIB. Le lancement du projet de construction du bâtiment devant abriter les locaux de l'antenne régionale de l'ONI dans la région du Centre-Ouest a eu lieu lundi dernier dans la cité du Cavalier Rouge. Cette infrastructure à terme devra permettre la production des cartes nationales d'identité des populations de cette localité. On en sait plus avec Sabuna Ouedraogo.
Le projet de construction d'un local devant abriter les services de l'Office national de l'identité va coûter plus de 50 millions de francs CFA. Les autorités comptent sur les forces vives de la région du Centre-Ouest pour mobiliser cette somme d'argent. Le président de la délégation spéciale de Kédougou, après l'octroi du terrain, s'active à mobiliser les fils et les filles de la région pour la cause. Jonas Mané, président de la délégation spéciale de Kédougou.
Nous avons approché des fils et filles de la localité qui ont donné vraiment leur OK pour nous accompagner pour la réalisation de l'édifice. C'est pas les ressources que nous allons mobiliser et réaliser l'infrastructure, c'est les fils et filles qui vont réaliser l'infrastructure au prix qui a été déjà dit.
Les responsables de l'ONU rappellent que cette initiative va réduire les délais de traitement des cartes nationales d'identité burkinabè et rapprocher l'institution des populations. Arzuma Loure, directeur général de l'ONU.
L'ouverture d'une antenne régionale présente beaucoup d'avantages. Il s'agit de rapprocher donc les services publics des administrés, des citoyens. Et cela aura l'avantage de réduire les délais de traitement.
Les acteurs ont promis que les premières cartes nationales d'identité seront produites à Kudugu avant la fin de l'année. Déjà, 6 régions possèdent des centres de production et avant 2024, l'ONI veut porter le nombre à 8. Sabuna Ouedraogo, Kudugu Radio Omega.
Et dans l'actualité hors de nos frontières, nous sommes le 3 août et c'est le jour de fête nationale au Niger. Le pays célèbre le 63e anniversaire de son indépendance, un anniversaire qui a lieu dans un contexte particulier. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de défilé militaire. Par contre, les Nigériens ont eu droit à un défilé de plusieurs manifestants dans les rues de Niamey pour soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir. Des milliers de personnes, essentiellement des hommes et des jeunes, se sont retrouvés à la place de la concertation pour 2 heures de meeting pendant lesquelles plusieurs discours ont été prononcés, notamment par des membres de la société civile issue de la coalition M62, connue pour ses positions contre la présence militaire française. Dans la foule des vêtements à l'effigie du général Abdourahmane Tchiani, commandant de la garde présidentielle à l'origine du coup d'État et président de la junte du Comité national pour la sauvegarde de la patrie et quelques drapeaux russes. Beaucoup de slogans contre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont également été entendus. Cette dernière a lancé un ultimatum d'une semaine aux putschistes pour déposer les armes. D'autres slogans ont été aussi scandés contre la présence militaire française. Des manifestants ont d'ailleurs défilé pacifiquement devant l'ambassade de France sans heurts. Concernant l'intérieur du pays à Agadez, là aussi, des centaines de personnes sont sorties en soutien à la junte. C'est une première dans cette ville emblématique du centre du pays qui n'avait pas pris parti depuis le début de la crise. Également, le président nigérien demande à la CEDEAO de tout faire pour une résolution à l'amiable, alors qu'une délégation ouest africaine se rend au Niger pour négocier avec les militaires putschistes.
La revue de presse.
Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas encore fini avec la réorganisation de l'armée, lance le journal Le Quotidien. Face à la pression des groupes terroristes, le chef de l'État burkinabé réadapte sa stratégie de reconquête de l'intégrité du territoire. Le président de la transition a signé le 21 juillet dernier un décret portant création de 2 régiments d'infanterie commando. Il s'agit du 52e RIC basé à Tougon dans le Sourou et du 53e RIC à Nouna dans la COSI. À l'international, le coup d'État du Niger et l'avenir du PDCI RDA avec le décès de Henri Kona Bédier intéressent nos éditorialistes du jour. La revue de presse, c'est avec Valérie Guéret.
Plusieurs sujets ont été abordés dans nos quotidiens du jour. Le journal Le Quotidien, lui, s'intéresse à la création de RIC à Nouna et à Tougan. L'espoir d'une débâcle de l'ennemi, s'exclame ce quotidien burkinabé. Pour notre confrère, le premier défi de ces RIC, c'est de desserrer l'étreinte de l'ennemi autour de ces villes assiégées et de mener des opérations d'envergure pour anéantir l'ennemi. Il faut couper l'herbe sous ses pieds et aller très vite et bien, opine ce journal. L'Express du Faso, lui, nous amène au Niger avec les sanctions de la CEDEAO. Coup d'État au Niger, jusqu'où la CEDEAO pourrait-elle aller, s'interroge le journal Bobolais. Ce n'est pas la première fois que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend des mesures financières, économiques et prévoit une intervention militaire dans un pays membre. Cette fois-ci, elle semble être sur la bonne voie, avec surtout le soutien de nombreux autres pays, y compris la Russie, qui exige le rétablissement de l'ordre institutionnel et du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, commente l'Express du Faso. Pour conclure, nos éditorialistes du jour se posent des questions quant à l'après-décès de Henri Konan Bédier. Le journal Le Pays se demande quel avenir pour le PDCI RDA. Déjà pour l'observateur Palga, il faudrait voir comment le PDCI RDA se comportera lors des prochaines régionales et communales prévues pour le 2 septembre prochain et pour lesquelles le vieux combattant qui vient de passer l'arme à gauche s'investissait beaucoup. On l'aura constaté, si personne n'a été désigné par le célèbre homme de Daoukro, il y a une fournée de dauphins putatifs ou réels et la liste va s'allonger car si Bédier pouvait parler sans que nul ne réplique, ce n'est plus le cas. L'arène PDCI est ouverte. Place aux gladiateurs, souligne aujourd'hui au Faso.
L'invité du jour. L'invité du jour. L'influenza aviaire, hautement pathogène, aussi appelée grippe aviaire, est une maladie virale de la volaille domestique et sauvage qui peut être transmise à l'homme. Quels sont les symptômes et comment peut-on lutter contre cette maladie? De quel accompagnement bénéficient les éleveurs dont les fermes avicoles ont été ravagées par l'influenza aviaire, hautement pathogène? Pour en parler, nous recevons Dr Kadré Sanfo, vétérinaire à la Direction générale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Il répond aux questions de Judith Traoré. Il est l'invité de la rédaction.
Docteur Kadré Sanfo, bonjour.
Oui, bonjour.
L'influenza aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est?
L'influenza aviaire hautement pathogène, encore appelée grippe aviaire, est une maladie virale de la volaille domestique et sauvage et qui peut également transmettre l'homme. Le Burkina a connu plusieurs épisodes aussi, savoir une épisode aussi en 2006, en 2015 et en 2022.
Quelles sont les espèces aviaires ou animales susceptibles de porter et de transmettre la maladie?
Les espèces principales sont la volaille, qu'elle soit domestique et sauvage, et également le porc qui peut être également concerné et qui peut également héberger plusieurs souches. Et l'homme peut être également affecté, soit à partir de la volaille ou à partir du porc.
Chez les espèces aviaires, quels sont donc les signes de la maladie?
Il faut noter que c'est une maladie qui s'exprime sous une forme aiguë ou souvent suraiguë. Généralement, la volaille n'arrive pas à exprimer les signes cliniques ou extérioriser les signes cliniques avant la mortalité. Des fois, on peut voir la coloration de la crête. Il peut également avoir des signes respiratoires où la volaille a de la difficulté à respirer. Tous ces signes peuvent ne pas s'exprimer du vivant de l'animal. Et à l'autopsie également, certaines lésions peuvent passer inaperçues. Généralement, c'est le taux de mortalité. Parce que si la volaille est affectée, nous avons une forte mortalité. Donc souvent, c'est ça qui alerte l'agent sur le terrain. Et si des prélèvements sont réalisés, ça nous permet de confirmer ou infirmer s'il s'agit bien de l'influenza aviaire hautement pathogène.
En cas de détection de cas dans un élevage aviaire, quel est le protocole sanitaire qui doit être mis en place?
Si des cas de mortalité sont constatés, l'éleveur ou le propriétaire des animaux doit contacter un agent vétérinaire qui va passer faire le constat et faire le diagnostic. S'il y a lieu, faire des prélèvements et envoyer au laboratoire pour des analyses. Et il peut déjà commencer à mettre en place des mesures conservatoires et à l'isolement et à la mise en quarantaine si possible pour éviter la dissémination du virus à d'autres bâtiments ou à d'autres fermes. Également, si les résultats sont confirmés qu'il s'agit bien de la grippe aviaire ou de l'influenza aviaire hautement pathogène, un protocole sanitaire ou des mesures de lutte qui doivent être appliquées. Donc au Burkina, ce qui est fait, c'est l'abattage sanitaire. Les animaux vivants autour du foyer doivent être abattus et cela également s'il est fait avec l'accompagnement de l'agent vétérinaire et un procès verbal également qui est rédigé et qui est signé par des parties prenantes et cela également peut permettre à ce qu'une solution soit trouvée pour accompagner l'éleveur dans ce sens.
Comment lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogène?
La lutte efficace contre cette maladie, c'est de faire toujours recours aux spécialistes du domaine, l'agent vétérinaire, qui peut accompagner les éleveurs non seulement pour la mise en place des mesures de biosécurité et également les accompagner par rapport à tout ce qui est prophylaxie, que ce soit prophylaxie sanitaire ou médicale. Également, toujours s'approvisionner auprès des gens qui ont des produits aviaires de qualité. Également, ne pas importer frauduleusement de la volaille provenant des pays qui sont toujours considérés comme des pays infectés de l'influenza aviaire.
Quelles sont les conséquences de l'influenza aviaire hautement pathogène?
Les conséquences sont énormes. Premièrement, c'est une conséquence économique compte tenu de la forte mortalité. Donc un éleveur qui voit pratiquement tout son cheptel parti à cause de cette maladie, Donc il y a un impact économique pour cet éleveur. Derrière ça, nous avons également un impact sanitaire parce que l'influenza aviaire également peut affecter l'homme. Donc l'homme également peut faire la maladie, même si pour le moment au Burkina, pour l'épisode aussi de 2022, nous n'avons pas eu de cas confirmés au niveau des humains, mais cela n'exclut pas que l'humain ne peut pas faire la maladie. Il peut avoir également une contrainte sur le plan des échanges commerciaux parce qu'un pays qui est affecté a également des restrictions commerciales pour ce pays avec les autres pays.
Est-ce que l'État accompagne les éleveurs qui ont vu leur volaille ravagée par la grippe aviaire?
Oui, l'État accompagne les éleveurs parce que c'est également l'intérêt de l'État de faire vivre cette filière. Donc cet accompagnement est réalisé, mais l'accompagnement est vraiment fait à l'endroit de ceux qui ont réellement suivi le protocole établi par l'État. Donc c'est sur cette base que l'État peut accompagner les éleveurs avec une indemnisation.
Docteur Kadri Sanfo, merci.
Merci à vous également.
Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. La réalisation de cette édition a été assurée par Edwige Tiendrebego. Prenez un grand soin de vous.
Radio Omega, l'info en direct.